Bien, alors nous allons commencer cette séance consacrée à un autre texte de l'Épître aux Romains. Est-ce que vous m'entendez convenablement?
Oui.
Bien. C'est mieux que bien. Très bien. Je vous fais tout de suite circuler le texte sur lequel nous allons travailler, ainsi que derrière deux textes que l'on prendra en cours de route sur la question de la prédestination, parce qu'à la fois c'est l'occasion de lire un passage important de l'épître de Paul aux Romains, et puis c'est l'occasion de s'interroger un peu sur la prédestination et puis de pouvoir l'évoquer à travers vos questions, à travers soit vos enthousiasmes, soit vos hésitations au sujet de la prédestination. Donc une séquence intitulée « Prédestiné, mais à quoi ?» Et donc, ce que je propose, c'est que on utilise ce passage de l'Épître aux Romains comme fil conducteur de notre réflexion et qu'on le prenne verset par verset, donc les versets 18 à 39. Donc, je vais les prendre. Je vous proposerai des éléments d'analyse, de commentaires, et puis comme d'habitude, hein, vous avez toute liberté pour intervenir, aussi bien pour les questions que pour les réactions, et puis même des dialogues peuvent s'engager. Voilà. Donc, nous avions vu la fois dernière au chapitre 5 de quelle manière Paul dit à quel point Jésus-Christ est celui qui solde l'éventuelle dette que nous aurions contractée avec Adam. Ça, c'est dans l'hypothèse d'un péché originel. À supposer que vous soyez le fervent partisan de la doctrine du péché originel, Paul dit que Jésus-Christ solde cette histoire-là, donc elle n'a plus lieu d'être. Et ce que Paul proposait, c'était de voir dans l'épisode d'Adam et Ève le moment où chacun, c'est-à-dire Adam comme figure récapitulatrice de l'humanité, comme figure typique de l'homme, ce moment où une distance s'installe entre la parole de Dieu et nous, c'est-à-dire le moment où nous ne sommes plus nourris, nous ne sommes plus animés par cette parole qui s'est exprimée au premier chapitre de la Genèse, cette parole créatrice. Et donc Jésus, par toute sa vie, va montrer qu'il est possible de réduire la distance entre la parole de Dieu et nous. L'incarnation, c'est le fait que, par notre existence, nous pouvons incarner la volonté de Dieu, l'espérance de Dieu, et donc nous pouvons abolir cette distance qu'on appelle le péché. Il y a ce passage intéressant au chapitre 7 où Paul va dire « Le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas, et le mal que je voudrais éviter, je le fais quand même ». Et il y a ici ce texte que nous allons prendre et qui va nous permettre de découvrir de quelle manière les protestants du XVIe siècle et donc nous-mêmes à leur suite pouvons avoir une sorte de décontraction par rapport à la vie. Voilà, ce que j'aimerais, c'est vous montrer que ce texte nous permet d'avoir une sorte de décontraction. Et vous avez peut-être vu que j'ai mis un petit bout du passage de Max Weber. Comment ce texte, en quelque sorte, peut constituer le socle qui développe non seulement une éthique protestante, mais aussi l'esprit du capitalisme. Bon, là, ça sera un petit peu tiré par les cheveux, mais on va voir ça. Donc, commençons par le commencement. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, évidemment, une telle formulation peut nous sembler très éloignée de la manière que nous avons aujourd'hui de nous exprimer. On peut avoir le sentiment qu'il y a là une sorte de rhétorique religieuse qui ne serait qu'un vernis. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de constater que pour Paul, il y a à prendre au sérieux le constat qu'aujourd'hui, les personnes peuvent éprouver des souffrances et que nous sommes encore aujourd'hui affrontés à la question du mal. Vous voyez, il y a cette idée selon laquelle les chrétiens pourraient être exempts de toute souffrance et que finalement, la condition de chrétien pourrait s'éprouver par le fait que nous avons une vie sans difficulté. Eh bien, Paul pose dès le départ que la foi chrétienne ne nous exempte pas des difficultés. Et après tout, le psaume 23 qui parle de la félicité du croyant parle aussi de la vallée de l'ombre de la mort, hein, qu'il s'agit de traverser. Donc, c'est une façon de dire que il y a aussi de la souffrance dans la vie chrétienne, et cette souffrance, elle est due au fait que nous n'avons pas reçu encore l'intégralité de l'héritage qui nous est promis. Pour le dire avec un autre terme qui sera au centre de la réflexion de Paul, la filiation est encore en devenir. Notre capacité à être enfant de Dieu n'est pas pleinement accomplie. Hein, et la figure de fils de Dieu va être développée dans la suite de ce chapitre. Autrement dit, c'est parce que nous ne sommes pas encore intégralement fils de Dieu que nous souffrons. Nous souffrons de cet écart qu'il y a entre notre identité actuelle et notre identité en devenir. C'est exactement ce que Théodore Monod disait en parlant de notre humanité en devenir. Voilà, nous apprenons à devenir humains. Et il le rapportait bien finalement à l'idée de Paul. Hein, je vous disais la distance qu'il y a entre la parole de Dieu et nous-mêmes. Eh bien, Théodore Monod disait « Le XXe siècle nous montre qu'après toutes les idéologies possibles, il y a encore quelque chose qu'on n'a pas essayé, c'est l'Évangile. » Autrement dit, il y a encore une distance entre l'Évangile et nous-mêmes. Et l'idée, ça serait justement de réduire cette distance. Et c'est en réduisant cette distance que nous pouvons recevoir pleinement notre identité de fils de Dieu en héritage.
Il y a quelque chose, moi, que je ne comprends pas très bien dès le premier verset.
Oui.
C'est ce face-à-face entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. D'abord parce que parler de la gloire à venir, il y a un élément un peu spéculatif, je trouve. Mm-hmm. Hein, parce qu'on ne sait rien, finalement.
Oui.
C'est quelque chose qu'on attire, comme ça.
Oui.
Et pourquoi est-ce que, admettons, pourquoi opposer ou mettre. Pourquoi dire que, finalement, la gloire à venir fera qu'on n'aura pas de souffrance. Pourquoi mettre face à face souffrance et gloire. La gloire ne paraît pas être le mot qui nous concerne.
Alors,
face aux souffrances.
Très bien.
Qui convient.
Mmh. Alors, si on respecte le verset, il ne dit pas que dans l'avenir, il n'y aura plus de souffrance. Il ne dit pas qu'à un moment donné, notre identité sera pleinement réalisée. Et donc, il ne dit pas qu'il n'y aura pas un petit reste de souffrance possible. On va voir par la suite qu'effectivement, il traite de l'espérance pour parler justement des choses qui sont un peu spéculatives. Hein, il va parler des choses qu'on ne voit pas encore et du coup, l'espérance est nécessaire. Je dirais qu'il va distinguer deux choses, un peu comme le fait l'évangéliste Jean. L'évangéliste Jean parle du monde, et quand il parle du monde, il en parle un peu de façon négative, comme du lieu où s'exercent des forces de violence. Et l'évangéliste Jean dit même cette phrase qui est reprise dans la confession de foi de l'oratoire, « La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi ». On peut se dire, mais pourquoi faudrait-il vaincre le monde? C'est vaincre le monde au sens du temps présent qui est marqué par de la violence et de la souffrance, par opposition à un mieux-être. Et c'est Jean Calvin qui, dans son commentaire de l'Épître aux Romains, dit, en fait, quand Paul parle de la gloire à venir, il veut parler de la gloire éternelle. Et finalement, il va opposer les deux temps. Le temps transitoire, le temps présent, qui n'est qu'une transition vers autre chose, et le temps de l'éternité, qui est ce qui est inaltérable. Et vous voyez, ça nous projette vers la fin, où on dira que rien jamais ne pourra nous retirer ce qui a été offert. Donc c'est inaltérable, vous voyez, c'est inconditionné. Et dès le départ, comme tu le soulignes bien, François, il y a cette opposition, à mon avis, pour distinguer d'un côté le transitoire, le relatif, à l'absolu, l'éternel, l'inaltérable. Et c'est une façon de relativiser en disant, je dirais, c'est un peu comme, comme l'opium du peuple de Karl Marx. Karl Marx, quand il dit que la religion est l'opium du peuple, ce n'est pas négatif dans son esprit. Il dit que c'est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, en fait. Vous voyez, c'est comme les états régressifs, parfois. C'est utile pour se reconstituer et puis repartir de l'avant. Eh bien là, il me semble qu'il y a le fait que la souffrance, il faudrait la mesurer au regard de ce qui nous est promis. Ça sera plus facile à vivre. Ce qui ne légitime pas la souffrance, bien sûr. Ce qui éventuellement la rend peut-être supportable. Parce que, on va le voir avec l'histoire de la prédestination, c'est pas ça notre horizon. On n'est pas destiné à la souffrance. Oui.
Vous avez marqué qu'il sera révélé pour nous. Dans la tome, c'est qu'il sera révélé en nous. Ce qui change complètement la chose.
Parce exact.
Dire cette gloire qui est révélée en nous, ça peut être dès maintenant.
Oui. Alors effectivement, le texte grec, c'est « eis », donc « en nous ». Donc ça, c'est très bien du point de vue de la tobe. Ça ne change pas grand-chose par rapport au sens. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites sur la question de la temporalité. Quelqu'un tout à l'heure me disait que l'itabassé rappelait que probablement Paul s'était exprimé en araméen et que cela avait été consigné par son scribe en grec. Qui dit une pensée en araméen dit une pensée selon la logique hébraïque, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux temps, l'accompli et l'inaccompli. Il y a ce qui est réalisé et ce qui est soit en train de s'accomplir, soit qui va s'accomplir. Et donc, le futur peut très bien être du présent, hein, ou un futur très proche en tout cas. Mais par contre, ce qui a été est fini. On passe au deuxième verset, comme ça on va peut-être réussir à arriver jusqu'à la fin. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, là, ce qui est intéressant avec Jean Calvin, c'est de réaliser que dans le texte grec, il y a, on pourrait traduire par l'attente ardente de la créature attend la révélation des enfants de Dieu. Vous voyez, il y a une double attente. Il y a une sorte de surdétermination de l'attente, ce qui crée ce vif désir. Et pour votre culture générale, la révélation, vous l'avez, hein, c'est apocalypsis, donc c'est ce qui donne l'Apocalypse. Souvenons-nous à chaque fois que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation et pas le livre de la catastrophe. Donc, quand je vous parlais de pleine réalisation de notre identité, on le voit dans ce verset aussi. Il y a ce moment où nous serons finalement semblables à Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire que, en fait, nous le sommes déjà, mais nous n'en avons pas encore conscience. Et ça, c'est exactement ce que dit le baptême. Dans la perspective protestante, ce n'est pas le baptême qui fait de nous un enfant de Dieu. Le baptême permet de révéler notre identité d'enfant de Dieu. C'est-à-dire que l'enfant qui vient au monde est enfant de Dieu et le baptême l'exprime, l'affirme, le révèle. Mais ce n'est pas le baptême qui changerait notre identité. Est-ce que ça c'est clair? Donc, on continue avec le verset 20. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Je vous le relis. « Car la création a été soumise à la vanité, donc ça veut dire que tout ce qui constitue la création, nous, les animaux, etc., a été soumis finalement au non-sens, au rien. La vanité, c'est ce qui est léger, ce qui n'a pas de consistance. Non de son gré, ça veut dire que ce n'est pas une pente naturelle. Ça veut dire qu'il n'est pas dans notre nature de n'être rien, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et là, ça va être Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il voudrait humilier la création et la réduire à rien, c'est parce qu'il lui fait découvrir la liberté de la gloire des enfants de Dieu, et qu'en découvrant cela, les créatures que nous sommes mesurent la distance qu'il y a entre celui que nous pourrions être et celui que nous sommes effectivement. Donc, je vais essayer de le dire simplement avec le développement personnel de l'enfant. Je m'y replonge. On peut dire que tant que l'enfant n'a pas bien conscience de son corps, tout ce qu'il voit, c'est lui, notamment la mère. Alors, il paraît qu'il faut le tiers séparateur du père, ça, c'est bien retenu. À un moment donné, il va prendre conscience que sa mère, ce n'est pas lui. Ne serait-ce que dans la façon de nommer les choses. Et donc, l'enfant va mesurer que d'un seul coup, ce qu'il prenait pour lui, eh bien, en fait, ce n'est pas lui. Donc, il y a une sorte de premier deuil. Donc, il y a une première souffrance. Et puis, il y a une deuxième étape. C'est peut-être le moment de la socialisation, peut-être vers 8 ans notamment. C'est le moment où l'enfant va découvrir qu'en fait, les autres qui sont autour de lui constituent une communauté, une société avec laquelle il peut collaborer pour agrandir sa vie. Hein, c'est le moment de la socialisation. Et donc, il n'est plus seul au monde et au centre de l'ensemble, mais il peut devenir un partenaire. Et dans ce partenariat, il va élargir son existence. Et la vie d'adulte consiste à justement découvrir à quel point nous sommes un individu en relation avec d'autres, et du coup, c'est ça qui fait de nous une personne. Une personne, c'est l'individu en relation avec d'autres individus. Et donc, ce moment où il découvre qu'il a besoin des autres, en fait, pour atteindre sa pleine humanité, c'est un moment de souffrance aussi. C'est un temps de deuil. Il doit, en quelque sorte, abandonner l'idée qu'il serait le centre, je ne dis pas la totalité parce que c'est dans le premier âge. Hein, l'idée de toute puissance, c'est le premier âge. Je pleure, j'obtiens le sein maternel. Mais ensuite, il y a l'idée que le monde ne s'organise plus autour de nous. Donc c'est la fin du narcissisme. Voilà. Et ça, c'est l'objet d'une souffrance. Mais c'est aussi une espérance parce qu'on va avoir un degré de réalisation bien plus important grâce à la collaboration avec les autres êtres humains que si nous étions seuls à jouer dans notre coin. Les jeux de société, pour les enfants de 8 ans, sont le moment où ils découvrent que c'est plus intéressant qu'un jeu seul. Et même si le jeu de société est en réseau sur Internet, ils ont plus de plaisir à jouer en réseau sur Internet que de jouer seul face au logiciel. Il y a des expériences positives aussi avec Internet. Et donc, ce que dit Paul, c'est que en nous rendant libres, Dieu est finalement celui qui cause en nous une part de souffrance. Vous voyez, il y a dans cette perspective du bonheur la souffrance de cet état de transition qui doit nous conduire à une autre façon de vivre. Et c'est exactement ce qui va s'exprimer dans le verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Contrairement à une mauvaise compréhension du livre de la Genèse, les douleurs de l'enfantement ne sont pas conçues comme une punition suite à la faute d'Adam et Ève. Certains comprennent que Ève et Adam ont croqué l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu les a punis en les chassant du jardin d'Éden, en rendant les grossesses pénibles et en faisant que nous devons travailler à la sueur de notre front. La sortie du jardin d'Éden, c'est plutôt le fait que l'homme et la femme sont désormais libres de pouvoir mener leur histoire, libres d'aller leur chemin, et Dieu les prévient de ce que sera leur vie pour que ce soit plus familier et donc moins effrayant. Et qu'il faut donc effectivement savoir que les douleurs risquent d'arriver pour pouvoir s'en prémunir. Et là aussi, vous savez qu'on ne pose pas la péridurale une fois qu'on est au plus fort des contractions et que le col est dilaté. Ça se fait avant. Voilà. Donc, un homme averti est quelqu'un qui va pouvoir, comme cela, faire face à ce qui lui arrive. Donc, ce n'est pas une malédiction de Dieu, ça serait plutôt une bénédiction. C'est-à-dire que je veux prendre soin de toi, donc je t'avertis de ce à quoi tu vas être confronté. Comme cela, tu pourras te préparer et ce sera plus facile à traverser. Et donc, nous avons ici une création qui soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a un mieux à vivre, mais ce mieux à vivre passe par cette phase qu'on pourrait appeler un peu une phase de tribulation, où effectivement, c'est tellement énorme ce qui doit nous arriver que ça va faire mal par où ça passe pour prendre les choses de la manière la plus littérale qui soit. Une fois de plus, non pas souffrir pour être belle, non pas le mal comme une pédagogie, mais comme le résidu de cette métamorphose à laquelle on est appelé. Bon, est-ce que pour l'instant, c'est compréhensible? Il y a aussi les objections possibles. Bien. Donc, on continue avec notre verset 23. Alors, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Qu'est-ce qui fait que nous soupirons? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des fois des moments où nous nous plaignons? C'est une vraie question, c'est pas juste rhétorique, vous avez le droit de répondre. Alors, lassitude.
Des événements extérieurs qui ne correspondent pas à nos attentes et à nos envies.
Les événements extérieurs qui ne correspondent pas à nos attentes et à nos envies. Autrement dit, une fois de plus, c'est le décalage qu'il y a entre la situation présente telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait être. Le gémissement, la plainte, traduit l'intuition, à tout le moins, qu'un autre ordre du monde est possible. Et donc, c'est comme pour les psaumes, lorsque le psalmiste se plaint, c'est parce qu'il pressent que les choses pourraient être autrement, qu'elles pourraient être plus heureuses ou plus justes. Et donc, le gémissement en nous-mêmes laisse entendre que nous avons justement cette conscience que le monde pourrait être organisé autrement, ou que la vie pourrait être d'une autre saveur. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. J'aimerais vous entendre sur votre compréhension de ce que peut être l'esprit et comment ça fonctionne. Parce que vous voyez, l'esprit, c'est censé être une donnée très familière. Moi, je pense que c'est redoutablement complexe et peut-être qu'on peut en parler un peu ensemble. Oui, Stéphane ? Oui, donc c'est le souffle, le vent. Très bien, donc il y a une sorte de mouvement. Donc c'est quelque chose de dynamique, très bien. Les prémices de l'esprit. Factuellement, dans notre vie quotidienne, là, comment est-il possible de repérer ou non l'esprit?
Des paroles ou des actes qu'on n'aurait pas imaginé la
faire vis-à-vis d'autrui et qui se sont réalisés.
Une sorte d'intuition qui n'est pas formulée définitivement, mais il y a, je dirais, une dynamique qui fait que ça avance.
Donc une dynamique qui fait que ça avance, mais cette dynamique, je dirais, comment est-elle initiée? Comment est-elle orientée?
C'est l'absence de la transcendance.
Une absence de la transcendance? Un autre sens de la transcendance. Très bien, remplaçons un gros mot par un autre gros mot. Parce que après, évidemment, je vais demander, mais cette transcendance, elle vient d'où et comment elle est orientée?
Organique.
Organique.
C'est dans notre cerveau.
Mais alors...
Attendez,
juste, vous, et puis ensuite, oui, allez-y. Non, allez-y.
C'est lorsqu'on éprouve, qu'on donne le meilleur de nous et qu'il y a d'ailleurs.
D'accord, donc la capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes est... quelque chose qui nous a stimulé de l'extérieur.
Des signes annonciateurs, il y a eu une tempête il y a 2-3 jours, on sentait qu'il y allait se passer quelque chose, ça bougeait quelque part.
Psychologiquement, je pense que dans toute la vie, on dit « je ne comprends pas ». Mais je retire que je ne comprends pas. Un jour ou l'autre, les choses se mettent en place. C'est toujours devant l'impuissance à comprendre ce qui se passe et puis tout s'enchaîne finalement. C'est-à-dire l'aveu d'un échec est momentané.
Oui.
Non-compréhension est momentanée.
Alors ça serait peut-être ce qu'est l'effet de la révélation, par exemple. Donc, pour essayer de rassembler ce que vous avez dit sur la question de l'esprit, ce que je repère, c'est qu'il y a en commun l'idée que c'est dynamique et qu'il y a des interactions. Interaction avec l'extérieur notamment. Alors, à partir de là, deux possibilités, selon aussi l'image du divin que l'on a en nous. Donc, on peut attribuer à Dieu comme entité séparée l'origine de cette dynamique-là. Et dans une autre perspective, on pourrait aussi considérer que l'esprit... c'est justement cette interaction qu'il y a de personne à personne, ou d'individu à individu, c'est ça qui fait de nous des personnes, et que dans ce que l'autre me montre, dans ce que l'autre me dit, il y a les éléments nécessaires pour me déplacer. C'est-à-dire que je ne reste pas en l'état, y compris ce que j'attends de la vie ou ce que j'attends de l'avenir. L'autre me laisse espérer quelque chose. Il me laisse entendre que je pourrais être quelqu'un d'autre, je pourrais faire d'autres choses. Je rejoins encore l'image de la filiation qui est extrêmement présente dans ce texte. C'est le parent qui ne se contente pas de ce que l'enfant fait dans sa scolarité ou ce que l'enfant a envie de faire de sa journée. Et le pédagogue qui lui dit « en fait, tu es capable de bien d'autres choses ». Et là, l'esprit, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui se tient devant moi et qui me donne à intuitionner autre chose, y compris par rapport à moi-même. C'est-à-dire que je vaux plus que ce que j'imaginais. Je suis capable d'accomplissements supérieurs à ce que j'imaginais. Et les prémices de l'esprit, c'est peut-être le commencement... prémisse, c'est le commencement dans le texte grec, c'est le tout début. L'intuition que quelque chose d'autre est possible. Donc vous voyez, on est dans cette phase où il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est initié. Oui ?
Conviction intime, non ?
Oui, il y a une conviction intime, mais pas en termes d'état, en termes de quelque chose de dynamique. Vous voyez, quelqu'un qui va devenir militant dans une association, c'est parce qu'il considère que, je ne sais pas, une situation ici ou là peut être arrangée. Il peut y avoir de l'amélioration. Il sent bien que ça pourrait être autrement. Et du coup, il va s'engager pour que ça advienne. Et si c'est vrai, c'est parce que quelqu'un lui a fait découvrir cela. C'est qu'en fait, c'est une posture idéologique peut-être. Nos idées ne viennent pas de nous-mêmes. Elles sont une reconfiguration de ce que l'on voit à travers d'autres. C'est tout à fait contestable, mais il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de créativité intrinsèque. On ne crée pas à partir de rien. Et même le texte biblique dit que Dieu crée à partir du tohu-bohu. Il reconfigure, mais il n'y a pas de création à partir de rien. Je le dis avec humilité parce que c'est quand même un peu présomptueux de faire une telle affirmation. Voilà, je le dis juste sur le registre, voilà ce à quoi j'adhère. Mais l'interaction, c'est ce qui va permettre le génie créatif. Et l'esprit, ça peut traduire cette interaction-là. Oui ? Vous, par exemple ? Non, bien sûr, l'autre peut même dégrader mon espérance. Alors, c'est peut-être l'autre idéal. Mais même si ce n'est pas l'autre idéal, vous voyez, quand l'autre me fait désespérer, eh bien, ce désespoir traduit quand même le fait que j'espère autre chose. Quelqu'un que je trouve extrêmement nocif ou toxique, il me renvoie en fait au fait que j'imagine une situation plus saine. Et donc ça me renvoie quand même à une espérance. Et le gémissement, il est dans cet écart.
Oui. Donc c'est pas l'autre, c'est quelque chose d'autre.
Ça peut être une multiplicité d'autres. Mais on peut, d'un point de vue théologique, considérer que l'autre ou les autres, c'est-à-dire les autres, nous qui sommes là par exemple, faisons figure de Dieu, les uns pour les autres. C'est-à-dire que nous, on va le voir après, nous sommes image du Fils, icône en quelque sorte. Et notre façon d'être là renvoie à autre chose. Là par exemple, en triturant ce texte, je vous donne à entendre autre chose que ce que vous aviez peut-être vu. Et du coup, ce déplacement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du travail de l'esprit dans le langage biblique. Et je ne sais pas du tout le sens que vous donnerez ensuite à ce passage. Nul ne sait où va l'esprit ensuite. On continue. Verset 24. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Donc là, ça fait typiquement référence à ce que tu disais, François.
Mais on n'a pas terminé l'explication
de la
seconde partie.
Ah, dis-moi.
Du verset 23.
Oui.
En attendant l'adoption, la rédemption de l'Esprit. C'est comme si c'était déjà une réponse aux prémices de l'Esprit. Nous soupirons nous-mêmes, et les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes. Pourquoi ? Comme si nous étions orphelins, seuls, et les prémices de l'Esprit, en attendant l'adoption.
Oui.
Donc, c'est une réponse à cette sensation de solitude, en quelque sorte.
Oui, on pourrait dire que ça traduit un manque.
Un manque, oui.
Et c'est ce manque qui va être, sinon comblé, du moins assumé ensuite. Par rapport au corps.
L'adoption, la rédemption de notre corps.
Alors, il y a plusieurs acceptions possibles. Alors, certains peuvent imaginer que, vous voyez, ça va traiter de notre corps au sens biologique du terme, et que dans une certaine mesure, on va être exempt de tout type de maladie. Mais j'envisage plutôt la notion de corps comme ce qui nous permet de faire histoire, ce qui nous permet d'entrer en relation avec les autres. C'est-à-dire que le corps, c'est ce chemin vers l'autre, et le fait que nous nous inscrivions dans un même espace, dans un même temps, c'est ce qui nous permet de faire histoire. Et donc la rédemption du corps, moi je la comprendrais très volontiers comme la rédemption de notre histoire, de notre trajectoire. Le fait que nous traduisons en actes, en paroles, ce qui pour certains ne serait que des pensées. C'est une façon de le comprendre, mais il peut y avoir d'autres hypothèses aussi. La notion du corps est tellement riche, en fait, que là, je le réduis très volontairement, finalement.
C'est un ensemble, le corps. C'est la personne aussi.
Oui, mais vous voyez par exemple quand Jésus dit prenez ceci est mon corps, à quoi fait-il référence? Probablement à son histoire personnelle. Quand il dit ceci est mon sang, quand on se souvient dans l'Ancien Testament que le sang c'est la vie, c'est le principe dynamique qui nous fait nous mouvoir et entreprendre. Et ensuite, la manière dont ça se réalise, on pourrait dire c'est le corps peut-être.
Parce que dans le texte en grec, le corps, c'est le corps physique ou...
Oui, c'est... Oui. Soma, le corps. Oui, oui.
Est-ce qu'on n'est pas encore là dans une phrase? Un passage de l'hébreu vers le grec avec l'histoire de l'accompli, de l'inaccompli, justement.
Alors, est-ce qu'on, la question, c'est est-ce qu'on ne serait pas comme tout à l'heure dans la transition entre l'hébreu et le grec ? Mais là, c'était plutôt sur la notion même de corps. Donc, c'est pas. Alors, ah oui, vous voulez dire.
Que le corps serait l'accompli et que l'esprit serait l'inaccompli, peut-être ?
Non, parce que là, il y a l'idée que on va avoir un corps glorieux, mais. Quand on regarde l'idée du corps glorieux chez Paul, c'est effectivement une sorte de transfiguration du corps, notamment quand il en parle dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15 sur la question de la résurrection. C'est une façon de dire que tout ce que nous sommes est, fait sens. C'est-à-dire que, vous voyez, on pourrait avoir l'impression d'être très éparpillé. Il y aurait une restitution de l'unité de notre être. Et qui dépasse largement la question du corps corporel, pour le coup. Bon, maintenant, je pense qu'on ne peut pas aller dans le sens de la cure de jeunesse. Hein. Ça ne va pas être possible, Françoise. Ça, je suis désolé, ça serait la surinterprétation. Exactement. Donc, c'est en espérance. Vous voyez, c'est... alors, à la fois, ça dit quelque chose de juste sur le fait qu'on ne va pas espérer ce que l'on voit, parce que ce que l'on voit, en fait, on le possède, on le saisit. Et l'espérance, c'est ce qui nous renvoie à ce qu'on ne possède pas, ce sur quoi on n'a pas la main. Et... l'espérance, en fait, parle de la promesse. Et la promesse est infiniment plus riche que le titre de propriété. La promesse, elle parle de réalisation encore à venir, alors que le titre de propriété parle d'un état définitif. Et ce que l'on voit, en fait... Mon idée dans la logique de ce chapitre de Paul, ce que l'on voit en fait, c'est ce qui est mort. C'est, on voit ce qui n'est plus déjà. Si on essaie de parler un peu du temps ou de la temporalité, le temps finalement, c'est ce qui fait passer. Et quand on voit quelque chose... Eh bien, c'est déjà passé, finalement. Vous voyez, c'est déjà en train de passer.
Il n'y a pas de raison d'espérer quelque chose qu'on voit.
Non, il n'y a pas de raison d'espérer quelque chose que l'on voit. Mais c'est plus que cela. C'est que le fait qu'il y ait à espérer fait que on peut encore devenir. S'il y a des je m'arrêterai bien là pour l'explication de ce verset, mais on peut continuer si c'est pas forcément très clair.
Mais est-ce que l'espérance, c'est pas purement et simplement ce que véhicule l'esprit le verset avant?
Oui.
C'est ce que l'esprit nous apporte.
Oui, c'est l'intuition que l'on a de ce qui peut advenir. Ouais.
Mais on n'est pas obligé chacun d'avoir une espérance différente. Hein. C'est pas quelque chose.
Non, non, bien sûr. D'autant qu'on peut très bien concevoir qu'il y a un horizon spécifique à chacun, et donc chacun peut avoir une espérance qui lui est propre. Et d'ailleurs, quand la question de l'appel votre question d'appel ici, va aller sur le plan de la vocation avec les réformateurs, et donc notamment sur la question du travail, qui est la façon que nous avons de répondre à l'appel. Il va y avoir, disons, un appel général à être humain, et après un appel spécifique, particulier, à entreprendre ce que nous sommes capables avec les talents qui sont les nôtres, hein, à traduire à notre échelle, dans notre situation, nos talents propres. Donc effectivement, il y a de ce point de vue-là une sorte d'individualisation ou d'individuation. Vous voyez, il y a là un lien très proche entre l'espérance et la foi. C'est très difficile, très ténu, hein, la distinction entre les deux. Parce que la foi, c'est le fait d'adhérer à cette espérance-là. C'est-à-dire que la foi, on pourrait dire que c'est le fait d'être saisi par cette espérance, saisi par cette promesse d'avenir. Et la foi, c'est le fait d'adhérer et du coup d'en faire quelque chose. C'est de s'impliquer ensuite. Et ça rejoint ce que tu disais. Du coup, il n'y a pas forcément des éléments dogmatiques. Ça peut être vraiment sur le registre existentiel. Et du coup, on pourrait dire que l'espérance, c'est le fait de désirer le bien promis. Et je le rapporte à ce que je disais l'autre fois sur le langage. Ça ne passe que par le langage, en fait. Il faut qu'il y ait un échange de paroles pour qu'il y ait l'intuition de cela. La promesse, elle s'articule quand même au langage. Je vous préviens qu'en disant ça, c'est aussi une posture, hein, pour y en avoir d'autres. Verset 25. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, c'est là peut-être que la foi entre plus en compte, c'est-à-dire que la foi devient patience, la foi devient endurance. La foi, c'est ce qui nous fait mettre de l'huile dans nos lampes pour attendre le jour et l'heure. Mais la foi, vous voyez, elle est quand même une espérance au sens où elle connaît et elle prend au sérieux la promesse. On pourrait dire ça, finalement. C'est Karl Barth, d'ailleurs, qui en parle comme ça. Karl Barth dit que, finalement, c'est une citation, d'ailleurs, je l'ai noté autant que je vous la donne telle qu'elle est, « La foi est espérance dans la mesure où elle connaît et prend au sérieux la promesse. » Et pour Karl Barth, la promesse, qu'est-ce que c'est ? C'est la délivrance de notre corps et l'existence dans la gloire du Christ ressuscité. Ça, c'est pour revenir sur ce que nous disions sur le corps. Pour, oui.
Est-ce qu'on ne peut pas traduire le verbe « voir » par « concevoir » C'est-à-dire, si on arrive, si nous espérons ce que nous ne concevons pas, ce que nous ne sommes pas capables d'appréhender, cela peut arriver, en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours questionner notre vision du divin ou notre vision du royaume de Dieu.
Quand il n'y a pas tous les orao et blepo ensemble, j'ai toujours un peu du mal à bien distinguer les différentes nuances des termes grecs. Mais il me semble bien qu'effectivement le terme blepo, ça peut être le sens de scruter, analyser. Mais là, je demande aux hellénistes. Et du coup, concevoir, ça irait bien. C'est-à-dire que c'est le fait d'organiser et donner du sens, un peu. On pourrait aller dans le sens de concevoir, il me semble, mais...
Je me demande s'il existe un autre mot en grec pour concevoir.
Alors, il faudrait d'abord, oui, effectivement, savoir s'il y a un terme pour concevoir. Oui. Mais bon, c'est une hypothèse qui...
C'est dans la lecture.
Il y en a tellement, depuis le Midsommar jusqu'à chez Bon. Je trouve que l'expression
que oui.
Monsieur, la différence entre voir et percevoir. Percevoir, je trouve que c'est le terme qui...
Je crois qu'au Rao est plus près de ça. C'est même proche de savoir aussi. Hein. À l'origine, pour les racines.
Bon, voilà. Donc là, on pourra effectivement, chacun de notre côté, aller creuser ce sillon-là. Mais effectivement, on sent qu'il y a plusieurs niveaux entre ce qui est de l'ordre de l'intuition et ce qui est de l'ordre de, du saisissement, disons. De même, aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc là, il y a une formule que l'on entend parfois dans les prières d'intercession. C'est finalement la reconnaissance du fait que nous ne sommes pas capables de prier convenablement, du moins nous ne savons pas prier et nous avons besoin de l'aide de l'Esprit pour que notre prière soit à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Ce que Calvin dit par exemple d'intéressant, c'est que ce verset nous laisse entendre à titre personnel que nous ne devrions jamais dire que nous ne sommes pas capables de prier ou que nous ne sommes pas assez forts pour prier ou que nous sommes trop faibles pour prier, que nous sommes, qu'il y a trop d'asthénie, pour reprendre le terme grec, pour prier. Parce que justement, il y a de l'aide qui nous est promise. Alors peut-être qu'effectivement, seul, individuellement, si on s'en tient qu'à ses propres forces, ça ne nous semble pas possible, mais il y a là une promesse selon laquelle nous ne sommes pas seuls. Et c'est là encore que les interactions peuvent être utiles. Il y a parfois des moments où nous nous sentons absolument secs. Il y a peut-être des fois où nous sommes comme sidérés face à une situation et nous n'avons plus aucun mot. Et bien dans ce cas-là, il y a les mots des autres. Les mots des autres, c'est par exemple Jésus qui enseigne à ses disciples comment prier, en quelque sorte quand ils sont en panne. Quand on est en panne de mots, eh bien, il y a toujours ce stock-là qui est disponible. Je me souviens de ce qu'écrivait Timothy Ratcliffe, qui était le supérieur des Dominicains. Il raconte un de ses séjours au Rwanda, au plus fort de la guerre, et il raconte comment lui et les moniales qui l'accompagnaient étaient sidérés, je veux dire, tellement d'horreur. Il rentre le soir, et au fond, il ne savait plus que faire ou que dire. Qu'est-ce qu'on pouvait encore dire après cela ? Il raconte qu'il est allé puiser finalement dans le rituel. Et le rituel, c'était la célébration de la scène, l'Eucharistie. Des mots, des gestes, des objets qui permettaient de reprendre pied dans l'humanité. Seul, il n'y serait pas arrivé, et même la communauté n'y serait pas arrivée seule. Et la communauté et lui sont allés puiser dans des mots qui leur venaient de loin et qui leur ont permis de reprendre pied. Voilà, c'est peut-être cela aussi l'expérience.
Je voudrais dire que Carrez traduit Blépeil par constater.
Alors, donc Maurice Carrez traduit Blépeil par constater.
Voilà. L'espérance constatée. N'est pas une espérance, ce qu'en effet on constate, qui espère.
Donc constater à chaque fois.
Constatons, nous espérons. Oui.
Ce qui est étonnant, c'est que l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire des soupirs sans parole, hein, pour avoir une traduction littérale. Là, on peut se demander ce que signifie le fait qu'il n'y ait pas de parole. Soit c'est parce que justement ça renvoie à des paroles qui ont été déjà prononcées et de ce point de vue, l'esprit n'en prononce pas de nouvelles. C'est-à-dire que l'esprit n'apporte pas de nouvelles paroles. Il nous renvoie aux paroles qui sont déjà là, hein, à ce fameux stock dont je parlais. Soit éventuellement, ça nous laisse entendre que Paul veut affirmer que ce qu'il appelle l'esprit, ce n'est pas une sorte d'émanation qui serait capable de parler par elle-même en dehors de toute médiation humaine. Et l'esprit ne serait pas une instance qui serait un locuteur, pour le dire techniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part des voix qui vont arriver sans qu'elles passent par le truchement de vous, vous ou moi. Ça peut être aussi une hypothèse.
Voilà. Moi, je comprends que Paul nous dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prière.
Mm-hmm.
Que la prière ne s'inscrit pas dans une échelle de valeur.
Oui.
Tu fais une bonne prière, tu auras 8. Ta prière était médiocre, tu auras 3. Non. Même si nous ne sommes pas capables d'exprimer ça, eh bien, c'est là que le verset dit ben, là, quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre qui exprime ta prière. Voilà. Je trouve que c'est important parce que on peut s'interroger quand même soi-même en disant ben, je ne sais pas quoi dire, ou je ne sais pas quoi demander, etc. Et c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important.
Oui, on peut commencer par balbutier et puis. En quelque sorte, notre balbutiement va être converti. Ah ouais. Oui, certains parlent du babillement aussi. C'est-à-dire que le babillement, c'est le fait de prononcer des sons qui n'ont pas de sens. Vous voyez, c'est le degré zéro de l'expression, qui est un gémissement finalement. Il peut y avoir un gémissement qui ensuite se met à faire sens.
La prière s'inscrit plutôt comme un dialogue. Le gémissement, le balbutiement étant un des éléments de ce dialogue.
On pourrait dire aussi que c'est une posture. C'est Raphaël Picon qui parle de la prière comme d'une posture conquérante. Parce que justement, il y a quelque chose à espérer. C'est-à-dire que si on prend la parole, c'est parce que là, ça ne va pas. C'est pas convenable. Et la posture conquérante, c'est finalement de se dire partons pour entrer dans cette terre qui nous est promise. Fichons le camp.
Ça peut être aussi un émerveillement.
Oui, oui. Alors, après, on peut faire toute la gamme des prières.
Le père de l'Église disait prier, c'est avoir l'audace d'une conversation avec Dieu. Ce mouvement où on sort un peu
de
soi.
Ah oui. Ici, il y a cette notion dans l'esprit.
Un peu plus fort peut-être pour que tout le monde profite.
Et si cette notion d'esprit parle aussi d'interaction, est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi l'émergence d'une notion d'égrégore ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire de quelque chose qui soit justement non-verbal et qui permet de galvaniser une force commune par l'interaction des différents individus.
D'accord. Donc, l'idée qu'on puisse agréger différentes personnes dans un même mouvement par voilà. Autre chose que de la parole.
C'est ça. Par quelque chose de commun, une démarche globale, en fait, quelque part, qu'elle soit verbale et non verbale. C'est pertinent.
Là, on est plutôt dans la démarche valable pour chacun, indépendamment du mouvement de foule.
D'accord.
Ce qui est intéressant dans ce verset aussi, c'est l'usage des deux verbes. Il y a le verbe intercéder. C'est le père Lagrange qui disait, tel qu'il est écrit, c'est-à-dire avec le préfixe uper, on pourrait dire surintercède. L'esprit surintercède. Et puis il y a ce verbe qui dit qu'en fait, c'est pas vraiment l'esprit qui nous aide, c'est l'esprit qui porte avec nous. Parce que c'est sunanti lambano, donc sun avec, puis lambano c'est prendre. Et donc, vous voyez, l'effet qu'on porte avec nous, je crois que ça va nous mettre sur la piste de, il va falloir qu'on porte notre croix, mais on sera pas seul à la porter. Je pense que Paul va nous embarquer là-dessus, vous allez voir. Sans en parler, mine de rien. Mais je vous ai dit, hein, l'idée de Paul, c'est qu'on ait une vie décontractée, avec la croix. Le verset suivant, le verset 27. « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, les saints, c'est les croyants, hein, chez Paul. Il ne faut pas faire une surinterprétation. Donc, l'idée de l'intention, ici, avec phronema, vous voyez, ça, le fait de la pensée, ça serait l'intention, c'est le but. C'est le fait de bien viser, c'est de ne pas se tromper d'objet du désir. Et donc, c'est l'idée de bien orienter. Tu vois, François, ça irait peut-être un peu dans ton sens, peut-être même beaucoup d'ailleurs. On commence par balbutier, et puis ensuite, ça va dans la direction où il faut. On ne sait pas trop, finalement, on est un peu comme perdu, et puis il y a une orientation qui est donnée.
Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas prier. Hmm? On l'entend souvent, ça. Mais à ça, il y a la réponse.
Absolue. Hein? C'est exactement ça. C'est la réponse à cette question-là. Oui.
D'ailleurs, quand on est dans une congrégation, c'est que l'on assiste à des patients, des heures de prière. Au début, on est complètement perdu, on a l'esprit qui flotte, on ne sait pas trop. Et à mesure que ça se reproduit dans la journée, peu à peu, l'esprit se calme, se range et la prière vient. Ça, c'est comme quand nous, il nous est arrivé de participer à des. Comme ça, avec les sœurs et le Mazille, et c'était 7h, midi, 4h. Je dis, mais jamais. À chaque fois,
et on y arrive.
Trois quarts d'heure, au début,
on pense qu'on ne va pas y arriver et on y arrive.
Presque,
bien sûr.
Fois,
ah oui. C'est, vous voyez, c'est une dimension très spirituelle, ça. C'est dépaysement, paysage. Effectivement, on est bousculé et on a l'impression peut-être de se noyer. Et puis à un moment donné. Eh bien, voilà, on trouve le rythme, on trouve la respiration. Imaginez que vous ayez des branchies sans le savoir et que vous êtes plongé dans l'eau. Eh bien, il faut accepter de se noyer pour pouvoir respirer. Il faut accepter que l'eau rentre dans les branchies, donc dans les poumons. Si un jour vous avez une greffe de branchies, il faudra que vous acceptiez de vous noyer. Je suis un peu loin, mais l'évangile est ultra radical. Ceci étant, ce que je vous disais là, je vais le dire dans un autre contexte tout à l'heure et vous verrez que c'est beaucoup moins drôle. La vérité de Paul est beaucoup moins drôle que les branchies des poissons. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, donc là on a les thèmes importants avec la question de l'appel. Et puis, même du dessin. Alors, il y a tout d'abord une sorte d'ambiguïté qu'il faut lever. C'est celle qui consisterait à dire que, dans la mesure où tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, eh bien, il est heureux que nous souffrions. Non, c'est la logique du livre de la Genèse avec l'épisode de Joseph, qui dit à ses frères qui voulaient le tuer, en tout cas qui se sont débarrassés de lui, « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. » Ou alors, Jésus qui dit dans l'évangile de Jean au chapitre 9 au sujet de cet aveugle de naissance, « Eh bien voilà, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. » Non pas que Dieu aurait voulu expressément que cet enfant naisse aveugle pour qu'il puisse montrer ses super pouvoirs, mais cette situation que vous me présentez en me mettant au défi d'en faire quelque chose, eh bien, ça me donne l'occasion de vous donner un enseignement nouveau sur Dieu. Et donc, c'est l'idée que nous pouvons convertir ce qui nous arrive. C'est un peu comme en aïkido, quand on vous agresse, vous utilisez l'énergie de l'adversaire pour vous défendre et pour préserver l'adversaire, y compris de lui-même. Alors, ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, cette idée de l'appel suppose un objectif, donc un dessein. C'est-à-dire que si quelqu'un nous appelle, bon, il y a fort à parier que ce ne soit pas complètement pour rien. C'est-à-dire que déjà, on peut considérer qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, et que ce quelqu'un qui pense à nous, ça nous donne conscience de nous-mêmes. Vous voyez, je reprends tout à l'heure l'idée de l'altérité avec l'autre. Quelqu'un vient à moi et me nomme, ça me donne conscience de moi-même. Il y a un « tu » qui fait que le « je » peut venir au monde. Et puis le fait qu'il m'appelle, il m'appelle hors de moi, et donc il y a quelque chose qui me dépasse. Et donc, on peut se dire que nous sommes au bénéfice de quelqu'un et de quelque chose. Et ce mouvement-là va vers quelque part. Et donc, on pourrait dire, voilà, il y a un dessin, même s'il n'est pas forcément très déterminé. Un dessin D-E-S-E-I-N. Une sorte de destination. On va le voir avec Paul. Le dessin, c'est l'image du Fils de Dieu. S'il y a un appel, c'est pour que nous nous orientons vers l'image du Fils de Dieu, vers l'icône du Fils de Dieu. On va voir ça. Quand nous ne répondons pas à l'appel, quand nous n'obéissons pas, je le rappelais hier au conseil presbytéraux, quand nous ne sommes pas sous l'écoute, hein, le verbe obéir, c'est upakuo, c'est être sous l'écoute. Quand nous sommes à côté, parakuo, quand nous ne faisons rien de cette parole, eh bien, à nouveau, la distance s'instaure entre la parole et nous, entre ce que nous pourrions être et ce que nous sommes effectivement. Et là, c'est encore l'histoire du péché, même s'il n'est pas question vraiment de péché dans le texte. Le verset 29, effectivement, nous dit cela. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, il y a deux verbes qui vont être construits avec le même préfixe « pro ». Il y a le fait de connaître d'avance, et puis il y a le fait de prédestiner. Alors, la prédestination. On va essayer de se l'aborder un peu de front. Si on prend le terme grec, donc c'est pro orizo. Alors, orizo, en fait, vous le connaissez dans une certaine mesure parce que ça donne horizon. L'horizon, c'est aussi bien la ligne courbe que vous voyez au bout, que du coup, la limite. Et souvent, on traduit pro orizo par préordonné. Et orizo, on le traduit par ordonné. Mais c'est aussi voilà, l'horizon, en fait. Et je trouve qu'il y a une sorte d'élégance dans cet horizon, parce que c'est moins coercitif que l'idée de prédétermination que l'on a souvent en tête quand on parle de prédestination. Et donc, il n'y a pas de mektoub au sens de c'est écrit, une sorte de scénario écrit à l'avance qu'il faudrait accomplir coûte que coûte. Il y a cette idée que nous avons un horizon tracé devant nous. Alors je vous propose de tourner votre feuille et de découvrir le texte de Jean Calvin sur la question de la prédestination. C'est donc notamment dans l'institution de la religion chrétienne qu'on trouve quelques chapitres, hein, au livre 3 sur la prédestination. Il y a une définition de la prédestination qui existe déjà en 1539. Vous savez que l'institution de la religion chrétienne a été écrite en plusieurs étapes. Et voici ce qu'on lit en 1539. C'est Calvin qui écrit. « Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme. » On pourrait dire quel est l'horizon pour chaque homme. « Car il ne les crée pas tous en pareilles conditions, mais ordonne, vous voyez c'est le verbe ordonner, hein, orizo, ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. » Et parce que certains vont à la vie éternelle et les autres à l'éternelle damnation, on parle de double prédestination. Hein, il y a deux destinations majeures possibles, double prédestination. Ainsi, selon la fin pour laquelle est créé l'homme, nous disons qu'il est prédestiné à la mort ou à la vie. Donc, double prédestination.
Et, oui. Est-ce qu'on pourrait comprendre de la même façon le texte en disant, non pas prédestiné, mais destiné ? Qu'est-ce que ça changerait ?
Ben, ce que ça change, c'est que...
Comme le verset 29, là, on
disait... Oui.
On ne va pas dire car ceux qui l'a connu d'avance, il est aussi prédestiné. On ne va pas dire car ceux qui l'a connu, il est aussi destiné à être semblable. Est-ce que ça n'aurait pas le même sens ?
L'idée, c'est que c'est avant que nous soyons. C'est-à-dire qu'avant que nous ayons décidé quoi que ce soit, cela était vrai. Je vais vous dire, moi, pourquoi ça me semble intéressant sur le plan théorique. Moi, à mon avis, Jean Calvin ne croyait pas en la prédestination. Pas plus que Jean-Jacques Rousseau ne pensait que l'homme était naturellement bon. Et pas plus que les auteurs bibliques pensaient que Adam et Ève avaient été des personnages historiques. À mon avis, ce sont des fictions qui ont tout leur intérêt. D'ailleurs, j'en avais parlé une fois dans un article sur la feuille rose. Vous pourrez retrouver un peu plus le détail de mon argumentation. Ce qui est vrai pour Calvin, à mon avis, il était au temps de Paul, et en tous les cas, l'est dans une certaine mesure à notre époque. Mais c'est manifeste à l'époque de Calvin, de Luther, parce qu'on l'a dans nos cours d'histoire. À l'époque, fin du Moyen-Âge, il y a les États. Clergé, noblesse, tiers état. Et selon notre naissance, on ne va pas passer du tiers état à la noblesse. On va rester dans notre état. Alors, évidemment, pour le clergé, ça marche moins bien, la question de la naissance. Mais il y a le fait que notre naissance est déterminante pour la suite de notre vie. Et ce que va faire Calvin, c'est de casser cette situation figée. En disant que notre identité, elle ne dépend pas de notre naissance, elle nous précède par un décret de Dieu, il a un nom pour ce décret-là, peut-être qu'on va le voir dans la suite de son texte, un décret secret de Dieu en quelque sorte. Ce qui signifie que quand il va faire le lien entre l'appel, la vocation et la prédestination, il va pouvoir dire que le cordonnier n'a pas une dignité moindre que le prince, par exemple. Que chacun va accomplir sa vocation en faisant en sorte de faire au mieux, et que chacun, dans sa situation propre, participe d'une même dignité. Et, si on le dit avec l'apôtre Paul, va faire en sorte de se conformer, d'être sur le principe de la morphée, de l'icône, du Fils. Voilà, voilà notre horizon. Et Calvin, à mon avis, avec cette histoire de la double prédestination, essaie de neutraliser la situation sociale de l'époque pour favoriser l'ascenseur social. Hein, c'est bien sûr anachronique, mais ça pourrait être cela. On peut se réaliser en dehors de la sphère dans laquelle nous avons vu le jour. Et puis, deuxièmement, ça va être une façon de neutraliser le pouvoir que l'Église a sur les consciences. Parce qu'à partir du moment où il y a un décret solennel de Dieu qui nous précède, l'Église ne peut plus faire commerce de notre salut. Notre salut ne dépend plus ni de nos actes, donc il n'y a pas de théologie des œuvres, ni du pouvoir des clés du pape. Le pouvoir des clés du pape, c'est-à-dire Pierre aurait les clés du paradis et donc nous donnerait accès au paradis selon nos œuvres, selon les indulgences qu'on acquiert. Pas de simonie possible. On ne peut plus acheter son salut. C'est un décret qui nous précède. Et ça va être déterminant du coup pour l'éthique protestante parce que, je vous le disais, ce que l'on voit, c'est la mort. Ce que l'on voit, c'est ce qui n'est plus déjà. Et donc, il y avait une angoisse par rapport à la mort à l'époque de Calvin. Et je crois que peut-être Delumeau est celui qui en a le mieux rendu compte en disant que la société s'organisait vraiment par rapport à la question de la mort et à la question comment faire pour s'assurer son salut. Eh bien, Calvin, justement, va permettre une approche décontractée en disant « ça ne dépend plus de nous ». Donc il faut se dépréoccuper de cette question. Et du coup, notre vie ne va plus s'organiser par rapport à la question de la mort, notre vie va s'organiser par rapport à cette promesse du bien vivable, du bien tangible. Et du coup, l'éthique protestante, elle ne se fonde plus sur comment faire face à la mort, mais comment faire face à la vie. Et ça, ça va être en fait extrêmement structurant sur le rapport au quotidien. Et c'est là-dessus, notamment, que Max Weber va porter un peu son analyse. Alors, je vous laisse le texte de Calvin. Je descends sur Max Weber dans l'éthique protestante ou l'esprit du capitalisme. J'ai pas d'action particulière chez Gallimard, mais cette édition-là, qui doit avoir une petite dizaine d'années, est assez réussie, avec un bon appareil critique. Une traduction renouvelée par rapport à ce qu'on est habitué. Donc, je vous ai déjà mis un petit passage que l'on trouve dans la partie l'éthique de la profession comme vocation et la sous-partie fondement de l'ascèse intramondaine. L'ascèse intramondaine, c'est la discipline de type monacal, mais pas dans la clôture, pas dans le couvent, dans le monde. Hein. Max Weber va dire que justement le protestantisme, la réforme a traduit les vœux monastiques dans le monde, au célibat la famille, au travail le travail et puis le troisième terme la pauvreté, c'est plutôt la réussite économique quand même. Bon, vous le lis. Une question devait nécessairement surgir sur le champ pour chaque croyant, et repousser à l'arrière-plan tous les autres intérêts, suis-je donc moi-même élu ? Et comment puis-je moi-même être assuré de cette élection ? Pour Calvin lui-même, cela ne faisait pas problème. Vous voyez ? Il y a une décontraction. Bien sûr, Martine a raison de sourire, c'est un peu exagéré. Max Weber est sur des types, donc il force un petit peu le caractère. Mais j'aime bien les intuitions de Max Weber, alors je vous les propose. Pour Calvin lui-même, cela ne faisait pas problème. Il se sentait lui-même comme un ustensile, comme un moyen, et il était assuré de son état de grâce. En conséquence, à la question de savoir par quel moyen l'individu peut s'assurer de sa propre élection, il n'y avait pour lui au fond qu'une réponse, à savoir que nous devons nous contenter de la connaissance du décret de Dieu et de la confiance persévérante en Christ. Vous voyez, on rejoint l'idée de l'Épître aux Romains ici. Et c'est cela qui engendre la vraie foi. Il rejette par principe, comme une tentative présomptueuse de pénétrer les mystères de Dieu, l'hypothèse que l'on pourrait reconnaître à leur comportement si les autres sont élus ou réprouvés. En cette vie, les élus ne se distinguent en rien extérieurement des réprouvés. Et vous voyez, c'est intéressant parce que souvent on se fait une idée de Calvin par rapport au puritanisme américain qui dit, on a développé l'idée selon laquelle quand on avait une grosse réussite économique, c'était le signe qu'on était élu. Et donc, dis-moi quel est le montant sur ton compte bancaire et je te dirai si tu fais partie des élus ou pas. Ici, Max Weber laisse entendre que Calvin ne reconnaît pas dans ses signes extérieurs de richesse le signe de l'élection, même plus que cela, il ne reconnaît pas dans la qualité de l'éthique le signe de l'élection. Ce qui rejoint l'idée de l'Ecclésiaste, Dieu fait lever son soleil de justice sur les justes et les méchants. Si on le prend à l'envers, les justes ou les méchants ne disent pas par leur comportement quelle est leur relation personnelle au divin. Oui.
Après les tentatives d'explication que vous avez données
oui.
Sur la pensée de Calvin,
oui.
je demeure
très choqué par cette affirmation de la vie éternelle, la prédestination à la vie éternelle, de l'éternel de la...
Oui.
Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelle est la pensée de Luther à la même époque sur cette question.
Elle ne peut être que plus radicale encore, parce qu'en fait, il s'appuie sur la pensée d'Augustin, qui est le premier à développer cette doctrine de la prédestination.
Pour moi, Calvin est un théologien parmi d'autres.
Hein. Oui.
C'est
pas le summum. Voilà. Oh, Paul est un théologien parmi d'autres.
Hein. Aussi. Mais donc, on peut contester sa théologie.
Mais bien sûr qu'on peut contester sa théologie. Mais c'est, à mon avis, plus que la contester, il vaut mieux la remettre en situation. Et moi, je dirais, essayons de voir ce qu'elle a essayé d'entreprendre. Et j'évoquais la question de l'homme bon, l'homme naturellement bon chez Rousseau. De mon point de vue, c'est une fiction, mais qui a eu son intérêt, c'est de développer au XVIIIe siècle l'idée selon laquelle une éthique est possible. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas bon, au fond, il est normal qu'il ne fasse rien de bon. Et vous voyez, cette fiction est une manière de dire non, en fait, penser son rapport aux autres, penser ses comportements est une chose possible.
Est-ce qu'on peut rapprocher cette explication de la parabole du semeur qui dit que voilà, le semeur jette sa semence. Ça tombe sur un gros terrain, sur un terrain avec des broussailles, un terrain avec des rochers.
Oui.
Donc ce qui voudrait dire, ce qui pourrait laisser entendre que, au départ, il y a ceux qui sont gros terrains, il y a ceux qui sont des broussailles, et puis il y a ceux qui sont des rochers. Est-ce que ça...
Ça, c'est une interprétation, je dirais, assez catholique. Et c'est pas du tout négatif hein, quand je dis ça. Il y a un paradoxe. C'est qu'au XVIe siècle, les théologiens protestants développent le self-arbitre, c'est-à-dire on n'a pas de liberté de conscience, et les théologiens catholiques développent plutôt le libre-arbitre. Et Erasme, par exemple, Erasme est en conflit avec Luther sur cette question-là. Et Erasme refuse de suivre Luther pour rester dans l'Église catholique. Et après, il y aura une sorte de retournement. Et comme souvent dans l'histoire des Églises, il y a des retournements. Donc, cette idée que finalement, cela dépend du sol et ce que le sol fait de l'accueil de la graine, c'est la métaphore de, après tout, tout le monde est au bénéfice de la grâce, et puis il y en a qui restent hermétiques, et d'autres qui l'accueillent. Hein? Et donc, Luther dira, hein, ça marche pas comme ça. Les théologiens catholiques diront, à l'époque de Luther, oui, ça marche comme ça. Et on pourrait prendre aussi l'optique de Karl Barth, qui a eu, je trouve, cette honnêteté de dire « on n'en sait rien, mais j'espère que tout le monde sera sauvé ». Quelqu'un comme Origène, dans l'Antiquité, avait été le premier à développer le principe du salut universel. Et puis ça avait été très rapidement effacé des tablettes par les théologiens, notamment Augustin. Et puis c'est le XXe siècle qui est revenu sur le principe d'un salut universel possible. Et du coup, il y a quelques théologiens qui essaient d'être fidèles à Calvin en disant « Oui, double prédestination, certains sont condamnés à l'enfer, d'autres au paradis, mais l'enfer est vide ». Je voulais juste encore un petit passage de Max Weber. Je voulais un petit passage de Max Weber un peu plus loin. Que le travail dans une profession profane ait été considéré en mesure de produire ce résultat, c'est-à-dire la certitude du salut, qu'il ait pu, pour ainsi dire, être traité comme le moyen approprié de neutraliser les affects d'angoisse religieuse, cela tient à des particularités profondes de la sensibilité religieuse cultivée dans l'Église réformée, lesquelles, dans leur opposition au luthéranisme, apparaissent au grand jour dans la doctrine de la foi qui justifie. Voilà, donc, Si vous voulez voir un peu plus la distinction qu'il fait entre luthériens et réformés à l'époque, il y a quelques passages qui sont assez intéressants. Mon idée, c'est vraiment qu'une hypothèse.
Entre les jésuites et les jansénistes, est-ce que c'est la même fracture ?
Mais au sein des églises réformées, on va avoir la même fracture entre les calvinistes orthodoxes, qui vont signer ce qu'on appelle les canons de Dordrecht, et puis par exemple les arminiens, les remontrants, qui vont développer un. Qui vont récuser le principe de la double prédestination et vont valoriser plutôt un salut universel. Mon avis, c'est la question du pouvoir. C'est qu'à partir du moment où on est dans une logique du salut universel qui ne dépend pas de nous, clergé, on n'a plus le pouvoir sur les fidèles. Et donc, à mon avis, ça traduit juste l'obsession du pouvoir, cette question-là. Et donc, ça traduit notre rapport à la grâce. Bon, après, en fait, ça traduit notre psychologie personnelle et le résultat du travail sur soi. Ce qui est intéressant aussi, et ça corrobore une approche, disons, libérale, mais qui traverse toutes les religions, c'est que qui dit prédestination dit que notre obéissance n'est pas déterminante. Ça ne veut pas dire qu'elle soit inutile, mais la prédestination ne dépend pas de l'obéissance. La volonté de Dieu n'est pas contingente. Elle n'est pas conditionnée, elle n'est pas subordonnée à ce que nous sommes. Donc, contrairement à une lecture de la parabole du semeur qui laisserait entendre que finalement on interviendrait. Et en disant cela, je précise aussitôt qu'évidemment, l'éthique calvinienne s'est développée comme étant beaucoup plus rigoureuse parce qu'il s'agissait d'être à la hauteur de ce salut, pour le dire théologiquement. On pourrait dire l'éthique était d'autant plus rigoureuse qu'elle était une façon de dire merci pour la vie offerte. C'est-à-dire que l'éthique devient un moyen de reconnaissance. Nous sommes au bénéfice d'une promesse d'un bien à vivre, eh bien, nous allons nous efforcer d'être à la hauteur de ce cadeau, en quelque sorte. Et alors ça ne va pas être que l'affaire des calviniens. Le théologien luthérien Dietrich Bonhoeffer va développer justement la grâce qui coûte comme le fait que quand on est aimé, eh bien on entreprend. C'est-à-dire que l'amour ne laisse pas impassible, l'amour ne laisse pas indifférent, l'amour nous oblige. Et Anna Arendt aussi pourrait être convoquée pour dire que une telle conception fait que nous sommes les obligés du monde. Mais décontractés, parce qu'on n'agit pas par la peur, on n'est pas obsédé par l'angoisse de la mort, on est décomplexé par rapport à ça. Et du coup, vous voyez, il y a une sorte de décontraction de l'éthique protestante qui s'oriente sur la question du bien et pas sur comment éviter le mal. Et le professeur d'éthique de Genève, Eric Fuchs, va du coup proposer comme titre à une éthique « Comment faire pour bien faire ?» Alors qu'on aurait très bien pu imaginer « Comment faire pour éviter la damnation éternelle ?» ou « Comment faire pour éviter le péché ?» ou je ne sais quoi. Non, c'est du coup... C'est ce que disait aussi Wilfred Monod, c'est le problème du bien. Même si Wilfred Monod parle d'autre chose en fait, mais considérer le bien comme un problème, je trouve ça intéressant. Continuons un petit peu, parce que finalement on va être obligé de sauter quand même. Le verset 32, ah oui, j'avais envie de vous parler un peu du verset 32. Donc Dieu qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Alors, qu'est-ce que ça signifie que Dieu aurait livré son fils? Déjà, ça peut signifier que Dieu se livre lui-même. Et ça, c'est déjà ce qu'on a au début de l'Épître aux Romains, chapitre 1er, les versets 24, 26, 28. L'idée, c'est qu'il y a, pour reprendre les termes de Paul, un abandon à la corruption. Et c'est là que je reviens sur mon histoire de poisson, de branchie et de noyade. Mais je le prends sous l'angle un peu plus tragique, avec le film de Costa Gavras, Amen. L'analogie est la suivante. C'est que Jésus est un peu comme cet officier qui va aller dans la Waffen-SS pour être les yeux de Dieu au sein de l'enfer. C'est un peu ce qui se dit dans le symbole des apôtres. Jésus est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est cette idée d'aller visiter ce qu'il y a de plus odieux pour que justement rien ne soit odieux. C'est-à-dire que rien ne soit privé de Dieu. Et donc, Dieu qui se donne au monde de façon inconditionnelle, absolue, c'est une manière de pouvoir convertir toute la création. De faire en sorte qu'il n'y ait pas une partie de la création qui soit privée de quoi que ce soit nécessaire pour une vie en plénitude. Ce qui évidemment peut être pour nous un engagement à ne rien laisser à l'abandon, à ne pas considérer qu'une cause serait définitivement perdue. Et certainement, y a-t-il là matière à penser une éthique assez radicale. C'est Karl Barth qui dit ceci: Dieu s'est livré, abandonné à la honte du péché humain et de la mort, afin que cette honte soit définitivement ôtée de l'homme. Eh bien ça, on pourrait le dire dans des termes différents. Raphaël Picon, lorsqu'il traite des exorcismes, parle de la traversée du désordre. Eh bien, c'est cela. C'est finalement, vous voyez, reparcourir le tohu-bohu de la vie et redire ces paroles qui mettent de l'ordre, ces paroles qui donnent du sens, ces paroles qui donnent une place à chaque chose et à chacun. Cette traversée du tohu-bohu, cette traversée du désordre pour rendre les choses à nouveau vivables. Et pouvoir dire, c'est tov, et même tov meod, c'est très vivable. Je continue. Ensuite, il y a ce passage très intéressant qu'on entend, que moi, en tous les cas, je dis souvent au début des services funèbres. Rien, jamais, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et là, vous avez toute la liste de ce qui pourrait éventuellement nous séparer. Et si je l'utilise dans les services funèbres, c'est pour dire que rien, jamais, ne pourra nous séparer de tout ce qui a été vécu avec la personne qui est morte. Hein ? Il y a une analogie. Ce qui a été vécu, lorsque cela a été, vécu dans cette perspective que développe l'Épître aux Romains, c'est quelque chose d'inaltérable. C'est ça la vie éternelle. Donc bien sûr que là aussi, il y aura de la souffrance, bien sûr qu'il y aura du gémissement dans le cadre du deuil. Il n'empêche qu'une traversée du deuil est possible et que il peut y avoir à nouveau une glorification du corps.
Mais même en dehors du deuil.
Oui.
C'est ça qui nous fait avancer.
Oui.
Il nous reste. Mais. Ça, au moins, ça fait avancer.
Oui. Je parlais du deuil parce que c'est une expérience assez radicale.
Oui.
Et comme en mathématiques, qui peut le plus, peut le moins.
Voilà.
Et que le jour où on n'a plus de connexion Wi-Fi, on s'en sort aussi parce que l'autre aspect plus radical a été réglé. Toujours avec Karl Barth, un peu plus loin, il écrit ceci. L'amour éternel de Dieu manifesté au centre du temps. Donc pour lui, le centre du temps, c'est l'événement Jésus-Christ. L'amour éternel de Dieu manifesté au centre du temps ne peut que confirmer les persécutés dans leur innocence et contenir dans leurs justes limites toutes les formes d'angoisse et d'orgueil. C'est intéressant, cette idée d'innocence. C'est un thème qu'introduit Karl Barth. Vous voyez, si on le dit aujourd'hui avec des termes plus psychanalytiques, c'est ce qui permet de neutraliser cette chose épouvantable qui est la culpabilité lorsqu'elle est mal placée. Et c'est pour ça que je peux parler de vie décontractée. C'est que justement, les formes d'angoisse, mais aussi d'orgueil, hein, c'est-à-dire qu'il y a les pailles et les poutres, eh bien, on peut s'en débarrasser. Et quelle liberté d'être quand on n'est plus coincé par les angoisses des menaces externes ou par l'inquiétude vis-à-vis de soi-même. Je veux dire par là que on est beaucoup plus libre d'entreprendre, beaucoup plus libre d'agir, beaucoup plus libre d'aimer quand le « quand dira-t-on » cesse de nous blesser, par exemple. Et de même, lorsque nous n'avons plus peur de nous-mêmes parce qu'il y aurait en quelque sorte une inclination personnelle à vouloir... enfin, je sais pas, vous prenez la liste des péchés capitaux et puis voilà, hein, voilà, vous faites le choix dedans. Quand on est débarrassé du fait que cela serait prégnant de manière irréversible... Eh bien, du coup, voilà, on peut y aller. On peut y aller. Et c'est aussi ça qui permet la levée des tabous, à mon avis, dans une vie marquée par l'Évangile. C'est la raison pour laquelle on peut considérer que la politique, le sexe, l'argent ne sont pas forcément des tabous auxquels il ne faudrait jamais faire allusion ou quoi que ce soit. Parce que, du coup... on va découvrir que ce qui est réputé être tabou peut tout simplement être revisité, peut être réinvesti de sens et de beauté, etc. Et les puritains, par exemple, ont été capables de cela, y compris sur la question de la morale sexuelle. Les puritains sont ceux qui disaient que la sexualité peut être comprise comme une chorégraphie qui met en scène l'amour. Et la sexualité n'est pas destinée exclusivement à la procréation. Ce sont les puritains anglo-saxons qui disent ça. Dans les faits, ça s'est traduit différemment. Bah, c'est-à-dire qu'après, il y a des crispations. Hein. Et puis, voilà, on ne peut pas non plus assimiler les pères fondateurs à leurs successeurs. Calvin est plus intéressant que les calvinistes. Et Jésus-Christ est souvent plus intéressant que les chrétiens. Bien. Je vous propose qu'on s'en tienne là pour notre...